Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Benoît Feit au micro. En novembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme condamnait la Belgique pour les conditions d'incarcération des détenus dans nos prisons. Des conditions qualifiées d'inhumaines et dégradantes par la Cour de Strasbourg. En cause notamment la surpopulation carcérale, l'hygiène déplorable et la vétusté de nombreux établissements pénitentiaires. Une situation qui n'est pas neuve, puisque la Ligue des droits de l'homme et l'Observatoire international des prisons, pour ne citer qu'eux, ont à de nombreuses reprises déjà dénoncé la réalité de l'univers carcéral en Belgique. Dès lors, comment expliquer cette nouvelle condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme? Quelles sont exactement les conditions de détention des détenus dans nos prisons? Existe-t-il des alternatives crédibles et efficaces à l'enfermement? Ce sont là quelques-unes des questions que nous allons poser ce soir à nos invités. Bibiana Guiménez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseillère morale laïque à la prison de Forêt et Berkendaal à Bruxelles, une prison pour femmes, et vous avez lancé en novembre, à l'occasion des Journées nationales de la prison, un site internet séjourderêve.be, une plateforme qui a pour but de décrire la réalité de l'univers carcéral. Vous nous en parlerez dans quelques instants. Je reçois également Anne Fivet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice juridique du Centre d'action laïque. Mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'aborder cette première partie d'émission en nous plongeant immédiatement dans la réalité carcérale, en suivant un reportage que nous avons réalisé à la prison d'Andenne en décembre dernier. Nous y avons suivi un conseiller moral laïque lors d'une des animations qu'il organise avec des détenus. On se retrouve en studio juste après pour commenter ce reportage et aborder ensemble les nombreuses questions qu'il soulève.
Patrick Van Oveken, je suis délégué au Centre d'action laïque de Namur et conseiller moral dans les prisons Namur, Andenne et Dinan. Nous sommes ici devant la prison d'Andenne, qui est une prison moderne qui a été construite et en tout cas qui a été inaugurée en 1997 et qui héberge 400 détenus.
Des hommes?
Rien que des hommes, oui. Donc c'est une maison de peine. Exclusivement. Ce sont des personnes donc qui sont condamnées et pour des plus ou moins longues peines. Alors aujourd'hui, je viens animer un débat qui s'appelle le Café Concert d'idées. Donc, c'est un espace de parole et d'expression offert aux détenus avec lesquels on choisit une thématique sur des valeurs, des problèmes de société. Alors ici, on est vraiment à droite, là, c'est le centre névralgique. Donc c'est vraiment l'espace contrôle, caméra, ils ont vu vraiment sur tout ce qui est la vie dans la prison et sur l'extérieur. Donc ils vraiment, c'est eux qui ouvrent toutes les grilles et portes nécessaires quand on les sollicite. Et alors sur la gauche, ici, c'est où on arrive à l'espace administratif où se tient la direction et où on ira tout à l'heure rencontrer la directrice.
Vous qui venez ici très régulièrement, vous devez toujours et systématiquement passer les contrôles de sécurité de la même façon?
Ah oui, ça impérativement, comme tout le monde. Même si on est connu, on doit se présenter, enlever tout ce qui est métallique et satisfaire au contrôle et la procédure sécurité au sein de la prison.
Comparé aux autres prisons que vous fréquentez, c'est une prison particulièrement sécurisée, celle-ci?
Donc ici, on sent qu'il y a vraiment d'autres mécanismes qui font que la sécurité est renforcée. Donc c'est moins évident de rentrer comme ça, sans, par habitude, où on pourrait dire bon, on est en confiance un petit peu. Donc, si je rentrais des objets, par exemple, je dois chaque fois bien remettre, par exemple, une liste. Un exemple, si je viens avec des journaux, je dois expliquer pourquoi je viens avec les journaux, même si c'est pour remettre à des détenus, par exemple. Donc il y a un contrôle strict plus rigoureux.
Particulièrement zélé comme prison?
Tout à fait, on peut dire, on va utiliser le mot zélé.
Je m'appelle Mathieu Galmard, je suis conseiller moral en fait à la prison d'Andenne où l'activité a lieu, à la prison de Jamieu et à la prison de Tournai.
Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce travail?
Je pense que la dimension d'écoute me plaît beaucoup parce que je pense très sincèrement qui sont très peu, enfin que les détenus en l'occurrence sont très peu écoutés, ou alors toujours à travers le prisme d'un dossier ou quoi que ce soit, alors que là finalement on ne va pas rencontrer un détenu dans le boulot que je fais, mais on va rencontrer un être humain. Et ça, je pense que c'est très important de garder la dimension humaine derrière la personne qui est incarcérée. Et ça, je le rencontre tous les jours et ça me plaît beaucoup.
C'est déshumanisant de vivre en prison ?
Oui, je pense, d'une certaine façon. Maintenant, on essaie de réintégrer chaque fois un peu d'humanité, mais je pense que c'est une dimension de la prison qu'on essaye d'apporter, un peu d'humanité, mais je pense que dans la vie de tous les jours, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Oui, enfin, moi, j'avais rencontré ce monsieur-là qui m'a dit qu'il viendrait. On va voir. C'est toujours, il y a toujours un petit moment d'attente parce que bon voilà, comment on...
C'est fini ?
Oui. Ok, ça va.
Donc voilà.
On va commencer. Il y en a combien aujourd'hui alors ?
5. 5 sur 13.
13, c'est pas des masses.
Voilà. Bah on fera. Il y a du laisser aller. Bon, on veillera à ce que ce soit mieux la prochaine fois. Merci. Hein.
Donc voilà, une des réalités ici, c'est que tout s'organise. Il y a des mouvements qui rythment un peu la vie ici dans la prison. Donc on a appelé les détenus à venir nous rejoindre. Ça se fait moyennant qu'on informe ici le centre. Donc le centre s'adresse à chaque niveau qui va ouvrir la porte aux détenus qui viennent. Donc ça prend un certain temps. On a lancé l'appel il y a un quart d'heure et les premiers arrivent. Donc il faut compter une bonne vingtaine de minutes avant que tout le monde soit revenu. Donc tout ça, ça nécessite du temps, de la patience, beaucoup de patience, des grilles qui s'ouvrent, des groupes qu'il faut patienter devant la grille avant qu'elle ne s'ouvre. Donc, c'est comme ça, ça fait partie du quotidien et des contraintes de l'établissement. Bon, ben voilà, bonjour à tous. On a fait le choix de reparler de la thématique de la politique. Donc moi, je me permettrai un peu de rappeler en synthèse tout ce qui avait déjà été abordé le mois passé. Je me suis aperçu que les points étaient déjà nombreux.
Le jour où il y aurait vraiment une guerre, je ne vois pas sur la petite armée belge qui a 30 000 hommes qui restent encore.
Tu parlais de l'armée, du roi, des pouvoirs du roi par rapport à l'armée. Est-ce que c'est bien lui le chef des armées ?
Le roi a pris sa place et occupe bien sa fonction et pleinement. Et tout le monde a l'air d'être content.
Qui j'ai compris de votre débat, pour attribuer pour les citoyens.
Mais je crois qu'il vient de mettre le doigt sur quelque chose de fondamental.
Et donc voilà, on clôture cette année le café-concert d'idées. On le reprend en janvier l'année prochaine. Je pense que Patrick partage mon avis. C'est une première année qu'on fait cette activité-là. On a déjà abordé pas mal de thèmes. Ça a été très riche. Pour ça, je pense qu'il n'y a qu'un seul mot, c'est un énorme merci.
Je pense que si des activités comme ça, grâce à vous et avec vous, si ça permet de dire que la prison insère, réinsère autant qu'elle incarcère, je dis ça, c'est un bel objectif que nous pouvons poursuivre ensemble.
Oui, les gens à l'extérieur, ils croient que la prison, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est pas vrai. Il faudrait qu'ils viennent, eux, une fois 24 heures à notre place pour se rendre compte qu'est-ce que c'est de la prison. Ça, ce serait une bonne chose.
Les gens dehors ont vraiment une très, très, très fausse, vraiment pas du tout l'image réelle de ce qui se passe en prison. En fait, grande partie de la population imagine que les gens en prison sont bien, parce qu'ils ont TV, parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont là. On montre, dès qu'il y a une nouvelle prison qui s'ouvre, on montre les beaux aspects. On dit accès Internet. Et les gens s'imaginent, allez, on est dans un hôtel 5 étoiles, on fait ce qu'on veut. Les gens n'imaginent pas ce que c'est de vivre 23 heures sur 24, pour autant qu'ils utilisent l'heure de préau, les 2 heures, on va dire 22 heures sur 24, enfermés dans 9 mètres carrés. C'est ça notre quotidien. On est enfermés dans 9 mètres carrés. Et dans le cas de mon collègue, là, ils sont à 2 dans ces 9 mètres carrés. Venez voir ce que c'est ces 9 mètres carrés, comment c'est disposé. 24 heures. Vous allez rester déjà 22 heures sur vos 9 mètres carrés. Vous allez avoir un accès à la douche. Vous faites 10 pas, vous êtes à la douche. Vous refaites 10 pas, vous êtes dans votre cellule sur les 9 mètres carrés. Hormis ça, il y a l'aspect communication. Mon collègue disait,
je ne suis pas fait pour vivre tout seul. Et effectivement, je crois que rares, à part les Robinson Crusoe, et encore, rares sont les gens qui veulent vivre seuls. Or ici, on est isolé. Dans le cas de punition, on a encore des mesures d'isolement encore plus extrêmes. Mais on est isolé. Qu'est-ce qu'on a comme communication avec les gens? Et c'est ça que je veux mettre en exergue par rapport à ce que Patrick fait ici. Moi, cette activité, elle est hyper importante parce qu'elle me donne la possibilité de parler, mais surtout d'entendre.
Donc ici, c'est aussi un lieu de rencontre réellement.
Ici, le café-concert, c'est pour moi le seul, ça fait quand même 5 ans que je suis ici en Inde, c'est le seul endroit où on peut parler. C'est vraiment un endroit, un espace de parole, un espace d'échange, un espace d'information, un espace de culture. Ça relie un peu tout ce qu'a fait Concert. C'est vraiment une échappatoire. Ce qu'on parlait tantôt ici en prison, le sacro-saint, le préau. Et comme il disait, le préau, c'est pas la panacée du tout. Comme il disait, on est sur des sections où, qu'on dit fermées, donc on n'a pas d'activité, on peut juste aller à ce préau, aller à sa douche, et c'est tout. C'est 9 mètres carrés, c'est 10 pas pour aller à la douche, revenir. Le préau, beaucoup n'y vont pas parce qu'il y a... On lance la prochaine fois sur l'histoire de la violence. Je pense que ça va venir terriblement là-dedans. C'est un endroit d'hyper-violence, ce préau.
Le problème, c'est que les gens qui ont le préau, qui sortent au préau, qui ont des activités. Et les gens qui ne sortent pas, qui ne bougent pas, qui ne font rien, ils n'ont rien, tu vois. C'est comme dehors, c'est ça que je dis. La société même, elle est violente, tu vois.
Et vous, pourquoi vous participez à ce café-concert d'idées? Qu'est-ce qui vous plaît ici?
C'est la première fois.
Et vous avez trouvé ça comment?
Je trouve que c'est bien et c'est de parler. Et c'est, voilà.
C'est important dans une vie de détenu d'avoir des instants comme
ça? Oui, c'est important.
Et vous, monsieur, vous participez ici pourquoi?
Pour un échange d'idées qu'on a. Avoir une façon de voir comment on vit dans la prison.
Vous participez depuis longtemps?
Oui, déjà un bon bout de temps.
Je m'appelle Christelle Locht, je suis directrice à la prison d'Andenne depuis 7 ans et demi. Ici à Andenne, comme nous avons des détenus qui sont condamnés à des assez longues peines par rapport à d'autres établissements, mais notre devoir est d'organiser leur vie en fonction de ça et donc d'organiser des activités qui permettent non seulement de les occuper, mais également d'essayer d'atteindre certains objectifs en matière de réinsertion.
D'essayer d'atteindre certains objectifs, vous semblez en douter.
Disons que, voilà, on est en prison, donc on est un petit peu au bout d'un parcours qui a été souvent difficile, pour la plupart des détenus en tout cas, donc un parcours de vie, j'entends bien. Et on arrive à un moment donné, avec très peu de moyens, à devoir pallier à toute une série de choses qui n'ont peut-être pas été mises en place avant. Donc oui, essayer avec les moyens qu'on a et sans... en ayant plutôt, un devoir au niveau de la mise en place des choses, du processus qui est mis en place, etc. Mais moins d'obligations en termes d'objectifs et d'atteinte d'objectifs.
La Belgique vient d'une fois de plus d'être condamnée par le Conseil de l'Europe, je pense, pour les conditions de détention. Ça évoque quoi, cette information, pour une directrice de prison?
Pour moi, ici à Andenne, ça n'évoque pas grand-chose, parce qu'on n'est pas... On ne fait pas partie des prisons qui ont, des conditions de vie... qui offrent des conditions de vie déplorables à certains détenus. Je pense que ça ferait plus écho dans certaines prisons, notamment à Forêt. Je reviens à la question des moyens. Ce qui est difficile, c'est avec les... qu'est-ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a? Et finalement, on débloque pas tellement de moyens pour les prisons. Même si certains pourraient dire le contraire, vu les nouvelles prisons qui ont été construites, évidemment. Mais nous, au quotidien, en tout cas, on ressent ce manque de moyens. Et je peux comprendre que l'État belge ait été condamné par rapport à certains manquements, mais qui ne sont pas, en tout cas, évidents ici à Andenne.
Ici à Andenne, c'est une prison que vous qualifieriez comment ? Modèle ?
Non, certainement pas. Qu'est-ce qu'une prison modèle, d'abord ? Non, bah, je ne sais pas répondre parce que je ne sais pas ce que c'est une prison modèle. Je pense que ça n'existe pas.
Et voilà. Merci.
Bonne journée.
Bon après-midi. Hein.
Est-ce que je peux juste vous conclure peut-être ce reportage par une réflexion plus personnelle ? Quel plaisir éprouvez-vous personnellement à faire ce que vous faites ici en prison ?
C'est la rencontre d'hommes qui souffrent, des gens qui certes ont enfreint la loi, qui ont été doivent subir une peine, mais au-delà de ça, il y a toujours justement une personne, et chaque personne a des valeurs, chaque personne a des choses à dire, des choses sur lesquelles ils peuvent essayer d'améliorer un petit peu par rapport à leur existence, des projets de vie aussi, parce que je pense que ce sont des personnes, il ne faut jamais oublier que quand ils sortent ici, il faudrait d'emblée travailler à leur sortie, et ils viennent déjà de tels de milieux tellement déstructurés, où peut-être il n'y a pas des normes, ils n'ont pas un encadrement, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir des parents, de la bienveillance, ils ont été confrontés à des choses difficiles et ont réajouté de la souffrance du fait de l'isolement. J'ai entendu un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Mailly, qui est un ancien détenu, qui fait une pièce, un homme debout et qui est venu témoigner un peu de son expérience. Et je pense qu'il disait que la torture moderne, c'était l'isolement. Je pense que c'est ça. Les prisons font en sorte qu'on isole de plus en plus les hommes qui sont incarcérés. Et c'est ça, je pense que c'est vrai, ça procède à la torture, à la souffrance. Donc venez les rencontrer parce qu'il y a un partage, il y a une relation de confiance qui s'établit. C'est ça qui est intéressant de constater, c'est que la personne s'ouvre, elle partage des choses. Il faut avoir cette discrétion, mais cette humanité aussi de pouvoir, avec elle, même si on la désapprouve, même si on désapprouve, leur donner toujours un espoir de dire il y a autre chose et chez eux il y a toujours d'autres portes à ouvrir.
Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. And time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd night, let that lonesome whistle blow my blues away.
Voilà, après ce reportage à la prison d'Andenne, on écoutait Johnny Cash avec Folsom Prison Blues, un morceau enregistré en public en prison. C'était en janvier 1968, il y a donc exactement 47 ans. Bibiana Guiménez, vous travaillez à la prison de Forêt et à la prison de Berkendal. Est-ce que les conditions de détention y sont comparables à celles qui étaient décrites par ces détenus à la prison d'Andenne?
Elles sont comparables, mais il faut dire qu'une prison n'est pas une autre. Déjà dans les deux prisons où je travaille, à la prison de femmes de Berkendal et à la prison d'hommes de Forêt, les conditions en tout cas matérielles sont très différentes. Il y a une grosse différence aussi entre les vieilles prisons et les nouvelles prisons. Par exemple, la Forêt, qui est une très vieille prison, il y a encore des cellules sans toilette, donc les détenus font encore leurs besoins dans un seau. Ça arrive que des détenus dorment sur un matelas à le sol à cause de la surpopulation. Ce qui n'arrive pas à Berkendal, qui est une prison beaucoup plus petite et qui, en tout cas, au niveau des conditions matérielles, ça se passe beaucoup mieux. Donc ça dépend vraiment de l'infrastructure, ça dépend aussi du personnel, de la volonté de chaque directeur. Même au sein d'une même prison, quand on change d'équipe, on remarque des grosses différences.
Est-ce que vous avez le sentiment que le grand public a conscience des conditions de vie en prison? On entend parfois parler de ce mythe de la prison 5 étoiles. Vous pensez que c'est un mythe qui est encore tenace?
Oui, je crois qu'il est même très tenace. On a lancé, comme vous avez dit tout à l'heure, un site il y a quelques mois qui s'appelle séjourderêve.be, qui était destiné à déconstruire le mythe de la prison hôtel 5 étoiles. On a reçu beaucoup de commentaires, ça a été pas mal relayé par la presse, et même des gens qui ont été voir le site et qui du coup ont eu accès à des informations tant objectives que subjectives sur la vie carcérale. Il y a toujours des réactions très violentes.
Et, de quel type, par exemple?
Que c'est peut-être pas une prison 5 étoiles, c'est peut-être une prison 4 étoiles. Que...
Même si on fait ses besoins dans un seau, qu'on est à 4 parfois par cellule sur 9 mètres carrés, ça reste
réponse...
pour certaines personnes. Vous pensez que c'est quoi? C'est une indifférence par rapport à la condition du détenu?
Je crois pas que c'est une indifférence, parce que les gens réagissent très, très virulemment, donc ça veut dire que ça les touche. Je crois que ça touche à les notions de bien et de mal qui sont très ancrées en chacun de nous et dont il est très difficile de se débarrasser. Donc la réponse automatique, je crois qu'elle est ils l'ont bien mérité. Je pense que les gens croient que les gens qui sont en prison sont forcément dangereux, que on ne rentre pas en prison pour un petit vol ou pour des histoires de deal, ce qui est le cas en fait.
Est-ce qu'on a une idée justement des proportions de personnes incarcérées pour des questions de stupéfiants par exemple? Est-ce qu'on a une idée en fait des personnes qui peuvent être réellement considérées comme dangereuses pour la société?
Moi je n'ai pas de chiffres concrets, peut-être qu'Anne en a plus que moi, mais
Anne
en tout
Fivet.
Cas il y a 45% des détenus en préventive, donc c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas encore été jugées, donc qui sont présumées innocentes. C'est quand même la moitié de la population carcérale.
Anne Fivet, à ce sujet-là?
Oui, effectivement, il y a une proportion de personnes qui sont en détention préventive, je rectifie un petit peu, on est actuellement à 31% en tout cas par rapport aux chiffres que j'ai pu consulter.
Mais on parle ici alors à l'échelle de la Belgique, de quoi?
De la Belgique.
3000 personnes plus ou moins?
Voilà, qui sont en détention préventive. Alors pour donner quelques chiffres, puisqu'on est, mmh. Je crois que ça vaut quand même la peine d'effectivement resituer le contexte. On a actuellement, en tout cas, en 2014, il y avait 11 000, un peu plus de 11 700 personnes détenues dans les prisons belges. À côté de ça, on a aussi le développement de mesures alternatives, surveillance électronique, et on est actuellement à 1800 personnes sous surveillance électronique.
On reviendra sur ces possibilités, enfin ces peines alternatives un peu plus tard, mais je le disais en introduction de cette émission, la Belgique a une fois de plus été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions d'incarcération déplorables des détenus dans nos prisons. Ce n'est donc pas la première fois. Comment expliquer que malgré ces multiples condamnations, la situation ne change pas?
Mais j'ai personnellement le sentiment que la Belgique est assez frileuse par rapport à toutes ces questions d'évolution des conditions de détention. Il y a d'autres pays qui ont effectivement pris le taureau par les cornes et qui ont pu effectivement modifier leur politique pénitentiaire.
Avec justement des peines alternatives ?
En développant des peines alternatives.
Comme lesquelles par exemple ?
C'est vrai qu'il y a la surveillance électronique, il y a la peine de travail. Il y a une série de mesures qui peuvent, remplacer la peine de prison. Actuellement, le problème, c'est que bien souvent, ces mesures alternatives qu'on essaye de mettre en place, effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a une volonté de mettre en place des mesures alternatives, mais en règle générale, elles viennent s'ajouter aux peines de prison. Donc on est en train en fait d'élargir ce qu'on appelle le filet pénal. Donc on ne rencontre pas la problématique vraiment de cette surpopulation carcérale globalement en recourant à ces mesures alternatives actuellement.
Est-ce qu'on est tous égaux face au risque d'emprisonnement ou est-ce qu'il y a justement des profils ou des parcours qui semblent être plus propices à une incarcération ?
Mais c'est clair qu'on se rend bien compte, bon, je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas une criminologue spécialiste de la question, mais on se rend bien compte que la population qui est actuellement dans les prisons est une population défavorisée, une population qui est dans la précarité et qui a eu un parcours en amont, je dirais, de l'entrée dans la prison, qui a eu un parcours chaotique, des personnes effectivement qui sont dans des milieux déstructurés.
Est-ce qu'on peut parler de justice de classe ?
C'est un grand mot, mais effectivement, c'est un constat qu'il faut faire, c'est que la prison arrive en bout de course d'une situation, difficile, d'un parcours difficile d'un certain nombre de personnes. Donc, de là à dire que la prison est un moyen de réguler, la pauvreté, il y en a en tout cas qui l'ont affirmé.
Mais vous restez plutôt prudente à ce sujet-là. Bibiana Guiménez, on entendait dans le reportage la directrice de la prison d'Andenne dire tout son désarroi face au peu de moyens dont elle dispose, le peu de moyens investis pour la réinsertion des détenus. Ça vous inspire quoi ?
Je trouve ça très bizarre déjà qu'on demande à la prison, à une même institution, de punir les personnes qui ont commis un crime et en même temps de le réinsérer. Je trouve que c'est lui donner un rôle un peu schizophrénique. Après, je pense qu'il y a effectivement un manque de moyens, mais c'est une question de choix politique, de choix budgétaire. Comme partout ailleurs, soit on met le budget dans la sécurité, le contrôle, la surveillance, soit on le met dans l'éducation, la culture, la réinsertion. Et puis de nouveau, ça dépend aussi de chaque prison, de la volonté de chaque direction. Et de la volonté du personnel.
Bibiana Guiménez, Anne Fivet, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir accepté de nous livrer votre témoignage au sujet de la réalité carcérale. Avant de vous quitter, je voudrais également remercier spécialement Patrick van der Weyken ainsi que le CAL Namur pour leur invitation à suivre les activités qu'ils organisent à la prison d'Andenne. Je voudrais aussi remercier la direction de la prison d'Andenne qui a gentiment accepté de nous ouvrir les portes de l'établissement et qui a également accepté notre demande d'interview. Et pour finir, évidemment, je voudrais aussi dire un mot au sujet de l'accueil que nous ont réservé les détenus de la prison d'Andenne. Merci à eux d'avoir accepté de partager leurs réflexions avec nous. Merci à eux pour ce moment d'échange sincère et très chaleureux. On espère qu'ils auront le sentiment d'avoir été eux aussi les invités de cette émission. Merci à vous également, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir.